بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، on commence donc ce soir par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala une série de cours sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous allons commencer cette série avec l'étude du livre « Les trois fondements » du Cheikh, l'imam, Muhammad ibn Abdel Wahhab al-Tamimi, rahimahullahu ta'ala. Et ce livre est d'une importance capitale. En effet, les trois fondements exposés par l'auteur ne sont autres que les questions qui sont reposées à chacun d'entre nous dans sa tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Ceux-ci sont les trois fondements abordés et détaillés dans ce livre de façon concise et basés sur les preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce livre, il traite donc d'un des fondements immenses de notre religion, qui est la aqida, la croyance, et il fait partie des bases essentielles qu'il convient de connaître pour chacun d'entre nous. L'auteur du livre, rahimahullah, il commence et dit « Bismillahir Rahmanir Rahim, i'lam » رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Il dit رحمه الله, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre questions. L'auteur رحمه الله a commencé son livre par la basmala, le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Ceci s'appelle en arabe Al-Basmala. Il a donc commencé son livre par cela pour différentes raisons. La première est qu'il a pris exemple sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, lorsque tu ouvres le mushaf, la première chose que tu vois dans le Coran est la Basmala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Et toutes les sourates du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala commence par la basmala, à l'exception de surat al-Tawbah. Il a fait cela également prenant exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrivait aux différents empereurs sur terre pour les inviter à l'islam, il commençait ses écrits et ses lettres par la basmala, c'est-à-dire le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et ceci nous prouve que c'est une sunna, que c'est une sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de commencer ses écrits par la basmala. Et c'est même la sunna des autres prophètes alayhi salat wa salam, comme cela est rapporté de Sulayman alayhi salam lorsqu'il a écrit à la reine de Saba. Il a commencé sa lettre par la basmala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet dans sourate An-Naml: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. La reine dit: ô notable, une noble lettre m'a été lancée. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Elle vient de Sulayman et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On voit donc que Sulayman alayhi salam, il a commencé cette lettre qu'il a adressée à la reine de Saba par la basmala. Ceci est donc une sunna qu'ont mis en pratique les prophètes alayhim salat wa salam. Il convient donc aux musulmans de commencer toute chose importante et tout écrit qui a une importance par la basmala, en écrivant Bismillahirrahmanirrahim. Et ceux qui ne commencent pas leurs écrits par la basmala, ils ont alors délaissé la sunna prophétique. Et ils n'ont pas suivi l'exemple du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que ceci soit la cause que leurs écrits soient privés de bénédiction. Le fait qu'ils ne commencent pas par la basmala. Et lorsque l'on dit « Bismillahirrahmanirrahim », c'est une manière d'implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu recherches l'aide à travers le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme si tu disais « Je commence au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, recherchant la bénédiction et implorant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc l'homme, lorsqu'il écrit, il commence par implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il recherche la bénédiction par la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc pour ces raisons que l'auteur, rahimahullah, a commencé cet écrit et ses autres écrits par la basmala. Ensuite, il a dit, rahimahullah, i'lam, sache. Ici, il a employé le verbe à la forme impérative. Ceci nous indique que ce qui va venir après est d'une grande importance. Il a donc employé ce verbe pour attirer ton attention. Et lorsqu'il te dit « sache », c'est-à-dire « apprends ». C'est-à-dire « apprends les choses qui vont être mentionnées par la suite ». Et la science, l'ilm, c'est le fait de concevoir une chose telle qu'elle est en réalité. La science, c'est le fait de concevoir une chose telle qu'elle est en réalité. Et c'est le contraire de l'ignorance. C'est le contraire de l'ignorance qui consiste à concevoir une chose de manière contraire à ce qu'elle est en réalité. Donc le cheikh rahimahullah, il attire ici ton attention sur les choses qu'il va te mentionner et qui sont d'une grande importance. Il te dit « sache », c'est-à-dire « apprends les choses qui vont être mentionnées par la suite ». Ensuite, il a invoqué pour toi. Et il a dit « Rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde ». Et ceci est une invocation du Cheikh, Rahimahullah, en faveur de l'étudiant en science, en faveur du lecteur de cette épître, en faveur de celui qui la lit, en faveur de celui qui l'écoute. Le Cheikh, Rahimahullah, invoque donc pour qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te fasse miséricorde. Et ceci nous montre le respect et la considération de l'enseignant envers son élève. Il commence par une bonne parole, et ce afin d'avoir de l'impact sur celui qui l'écoute, ou sur celui qui va lire ce livre. Quant à celui qui commence ses paroles par des paroles rudes, alors ceci ne convient pas. Au contraire, cela fait fuir les gens. Il convient donc aux musulmans, et notamment à l'enseignant, ou aux prêcheurs à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il leur donne le bien, ou qu'il interdit le mal, d'être courtois et poli avec les gens auxquels il s'adresse. Et de commencer la parole par quoi ? Par l'invocation en leur faveur. Par l'invocation en leur faveur et par des paroles douces, car ainsi ils seront plus à même d'accepter la vérité qu'il va leur amener. Rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Et si Allah te fait miséricorde, il n'y a pas de doute que tu seras heureux ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Et cette invocation, elle a été faite par ce cheikh, qui est un noble savant, un des imams de l'islam. Un homme pieux. On espère donc que cette invocation soit exaucée, incha'Allah ta'ala. Il a dit ensuite, rahimahullah, yajibu alayna. Il est obligatoire pour nous. C'est-à-dire que les choses que le cheikh, rahimahullah, va mentionner, ce ne sont pas des choses qui ne sont simplement recommandées. Et ce ne sont pas des choses qui ne sont que permises. Mais ce sont des choses qui sont obligatoires. Pour qui ? Il a dit pour nous. C'est-à-dire pour l'ensemble d'entre nous. Hommes et femmes, pauvres et riches, grands et petits, tous doivent apprendre les choses que le cheikh, rahimahullah ta'ala, va mentionner. Et si nous délaissons l'apprentissage de ces choses, alors nous serons dans le péché, car elles font partie des choses qui sont obligatoires pour nous de manière individuelle. Car l'obligation en islam, elle se divise en deux catégories. L'obligation en islam, elle se divise en deux catégories. Al-wajibul ayni, l'obligation individuelle, qui est ce que tout musulman et toute musulmane doivent accomplir. À l'exemple des cinq prières. Ceci est une obligation individuelle. Elle est obligatoire pour toute personne. Le deuxième type d'obligation, c'est l'obligation communautaire. Al-wajib al-kifa'i. C'est-à-dire que si une partie des personnes de la communauté l'accomplissent, alors les autres en sont affranchis. Mais s'ils délaissent tous cette obligation, alors ils sont tous dans le péché. À l'exemple de l'adhan, l'appel à la prière. Ce n'est pas une obligation lorsqu'entre le temps de la prière, que chaque musulman et chaque musulmane accomplissent l'appel à la prière. Mais il suffit à un certain nombre de personnes dans chaque contrée d'accomplir l'appel à la prière et le péché est ainsi levé pour les autres. Les autres sont affranchis ainsi de cette obligation. Mais si personne ne fait l'appel à la prière dans la contrée, alors tous les musulmans sont dans le péché. Tous les musulmans de cette contrée sont alors dans le péché. Donc le Cheikh rahimahullah, il nous dit ensuite اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم 40 مسائل. Il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 questions, c'est-à-dire 4 sujets. Et il les a appelés ici questions. Pourquoi? Car ce sont des choses sur lesquelles il est obligatoire que tu t'interroges. Et ce sont des choses auxquelles il est obligatoire que tu donnes de l'importance. قال رحمه الله الأولى العلم. Il a dit, rahimahullah, la première, c'est la science. Et ce qui est visé par la science ici, c'est la science religieuse. Car c'est celle-ci qu'il est obligatoire pour chacun d'entre nous d'apprendre et d'étudier. Et la science, elle se divise également en deux catégories, de la même manière que l'obligation. Il y a une science qu'il est obligatoire pour tous, pour chaque individu de connaître. Et nul n'est excusé pour l'ignorance de cette science. Et c'est celle sur laquelle repose ta religion. Comme le fait de connaître les cinq piliers de l'islam, les deux attestations, l'accomplissement de la prière, le fait de donner la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage de la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas permis aux musulmans d'ignorer ces choses-là. Au contraire, il est obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane d'apprendre ces choses-là. Il est obligatoire pour nous d'apprendre le sens des deux attestations de foi. Et ceci revient à étudier la croyance, à étudier la aqida. Le musulman, il apprend la aqida, il apprend la croyance. Dans quel but? Dans le but de la mettre en pratique et d'œuvrer selon celle-ci. Et il apprend le contraire, ce qui s'oppose à cette croyance. Il apprend le tawhid et il apprend le shirk. Il apprend la sunna et il apprend la bid'a. Il apprend le contraire, pourquoi? Afin de s'en prémunir et de s'en écarter. Ceci est donc une obligation pour chacun d'entre nous, pour chaque musulman et chaque musulmane. De la même manière, il est obligatoire pour nous d'apprendre comment prier. Si tu n'apprends pas les règles de la prière, quelles sont les conditions de la prière, quels sont les piliers de la prière, quelles sont les obligations de la prière, et ainsi de suite, tu ne pourras pas prier comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné. Il est donc indispensable pour toi d'apprendre la science. Et il en est de même pour les autres piliers de l'islam, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Celui qui souhaite accomplir le pèlerinage, ou la umra, il est obligatoire pour lui d'apprendre les règles du pèlerinage et de la umra. Ceci est donc le premier type de science qui est obligatoire pour chacun d'entre nous de connaître. La deuxième catégorie de science, c'est ce qui est ajouté à cela. Et cela comprend le reste des règles religieuses, comme par exemple les règles de l'héritage, les règles du mariage, les règles des peines légales, les règles de la vente, etc. Ceci, il suffit qu'une partie de la communauté l'apprenne, et ce n'est pas obligatoire à chaque individu de les connaître. Cependant, celui qui souhaite accomplir une de ces choses-là, alors ceci devient obligatoire pour lui. Ceci donc concerne la science religieuse, car c'est ce qui est visé ici par le Cheikh. Lorsqu'il dit la première chose qui est obligatoire pour toi, c'est la science, c'est-à-dire la science, la première catégorie de science, celle que nul n'est censé ignorer, et c'est la science religieuse. Quant à la science mondaine, celui qui l'ignore, il n'est pas dans le péché. Celui qui l'apprend, cela est permis pour lui, si c'est une science qui est permise. Si cela est profitable pour la communauté, alors il est récompensé pour cela, incha'Allah ta'ala. Mais si une personne meurt, alors qu'il ignore la science mondaine, il n'a aucun péché et ne sera pas interrogé à ce sujet au jour de la résurrection. Mais celui qui meurt, alors qu'il ignore la science religieuse, le premier type de science, celle que nul n'est censé ignorer, alors il sera interrogé à ce sujet au jour de la résurrection. Et on lui demandera pourquoi il n'a pas appris ce qui lui incombait d'apprendre. Car il sera interrogé dans sa tombe, tout d'abord sur ses trois fondements. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et s'il arrive à répondre juste à ces questions, alors il réussira, il obtiendra le salut. Bi'idhnillahi ta'ala. Mais comment doit-il faire pour pouvoir répondre à ces questions? Il n'y a pas de doute qu'il n'est pas possible pour lui de réussir à répondre à ces questions si ce n'est en apprenant la science. Quant à celui qui se détourne de l'apprentissage de la science et qui n'apprend pas ces choses-là de son vivant, lorsqu'il sera posé dans sa tombe et que ces questions lui seront posées, il répondra alors « Ah, ah, le adri, je ne sais pas. J'ai écouté les gens dire des choses et je les ai répétées. » Alors sa tombe se resserrera sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent et sa tombe deviendra une fosse parmi les fosses de l'enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Le Cheikh rahimahullah ta'ala ensuite il a dit « Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu dini l'islami bil-adillah » La première chose, la première question qu'il est obligatoire pour nous de connaître, c'est la science. Et il a ensuite défini la science comme étant la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Et ceci sont les trois fondements qu'il va aborder dans ce livre, incha'Allah ta'ala. La connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam. Comment a-t-il dit? Bil adillah, avec les preuves. Non par suivi aveugle, mais avec les preuves du Coran et de la Sunna. Ceci est la science. La science, c'est Allah a dit, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Ceci est la science, celle qui est basée sur le livre et la Sunna, selon la compréhension des compagnons du prophète, radiyallahu ta'ala anhum wa sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux paroles des savants, elles ne servent qu'à expliquer la science, à clarifier la science, à clarifier les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, à clarifier les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il se peut qu'il y ait parfois dans les paroles des savants certaines erreurs, car les paroles des savants ne sont pas des preuves et ne sont pas infaillibles. Mais les preuves, ce sont seulement les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux paroles des savants, elles nous servent à nous clarifier et à nous expliquer le sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et le sens des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est donc la première question et la première chose qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre et de connaître. La science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Ceci est donc la aqida, la croyance du musulman. On voit donc que le Cheikh, rahimahullah, il a commencé par la chose la plus importante et qu'il nous incombe de connaître. Ensuite, il a dit, rahimahullah, الثانية العمل به. La deuxième chose et sa mise en pratique. C'est-à-dire la deuxième chose qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre et la mise en pratique de cette science. Il n'est pas suffisant pour l'homme d'apprendre la science et d'enseigner, mais il doit plutôt mettre en pratique la science qu'il apprend. Car la science, sans mise en pratique, c'est une preuve et un argument contre le serviteur au jour de la résurrection. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Al-Qur'an, hujjatun, laka wa alayk. » Le Coran, c'est une preuve pour ou contre toi. C'est une preuve pour toi si tu le mets en pratique. Si tu le mets en pratique, que tu se soumets à ses ordres et que tu délaisses ses interdits. Mais c'est une preuve contre toi si tu ne le mets pas en pratique. Si tu ne mets pas en pratique cette science que tu apprends, alors cette science sera une preuve contre toi au jour de la résurrection. Et la science ne peut être profitable que si tu la mets en pratique. Quant à celui qui apprend la science et ne la met pas en pratique, il fait alors partie de ceux qui encourent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il a connu la vérité et il l'a délaissée en connaissance de cause. Et il est certes rapporté dans le hadith d'après Abi Hurayrata radiallahu ta'ala anhu que parmi les premières personnes qui seront jetées dans le feu au jour de la résurrection, il y aura un savant qui n'a pas mis en pratique la science. Un savant qui n'a pas mis en pratique sa science. Subhanallah, ceci est une menace sévère. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Les œuvres, la mise en pratique, c'est donc les fruits de la science. Et une science sans œuvre, c'est comme un arbre qui n'a pas de fruits. Il n'y a pas de bénéfice dans cet arbre, de la même manière qu'une science sans mise en pratique n'est pas utile pour la personne. Mais la science, elle n'a été révélée que pourquoi ? Que pour que les hommes la mettent en pratique. De la même manière, celui qui œuvre sans science, à l'opposé du premier. Le premier est celui qui a la science et qui ne la met pas en pratique. À l'opposé, celui qui œuvre sans la science. Alors son œuvre n'est que peine, fatigue et égarement. Si l'homme, il œuvre et il accomplit des adorations et cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, alors il ne fait à travers cela que se fatiguer, se causer de la peine et s'égarer. Et ses œuvres rentrent dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man amila amalan, laysa alayhi amruna, fahuwa rad. » Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors son œuvre sera rejetée. Il faut donc prendre garde à ces deux catégories de personnes et à ne pas faire partie de ces deux groupes. Le premier, ce sont ceux qui ont la science et qui ne la mettent pas en pratique. Et le deuxième, ce sont ceux qui œuvrent avec ignorance. Ils œuvrent sans aucune science. Et c'est pour cela que nous lisons dans chacune de nos prières, dans Surat al-Fatiha, « Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, sirat al-ladina n'amta alayhim, ghayr al-maghloubi alayhim wa l'adlalin. » Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Qui sont ceux qui ont couru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les savants du tafsir ont mentionné que ce sont les juifs, car ils ont eu la connaissance, ils ont eu la science, mais ils ne l'ont pas mise en pratique. Quant aux égarés, ce sont les chrétiens, car ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sans science, et ils ont légiféré des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala les a donc nommés égarés. Donc on demande dans chacune de nos prières, même dans chacune, dans chaque unité de nos prières, dans chaque raka'a, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te guide sur ce droit chemin. Et quel est ce droit chemin ? Le chemin de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses faveurs. Qui sont-ils ? Ce sont ceux qui ont la science et qui la mettent en pratique. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala dans chacune de tes prières de te préserver, d'être de ceux qui ont la science et ne la mettent pas en pratique, ou alors d'être de ceux qui œuvrent sans science ou qui œuvrent avec ignorance. Il faut donc prêter attention à cela et faire attention à ces deux types de personnes. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala, il a dit « Al-thalitha al-da'watu ilay » La troisième chose, la troisième question, la troisième chose qu'il est obligatoire pour nous, c'est d'inviter les gens à cela. C'est-à-dire d'inviter les gens à cette science et d'inviter les gens à mettre en pratique cette science. Il ne suffit pas pour toi que tu apprennes la science et que tu la mettes en pratique, mais il est indispensable pour toi que tu sois profitable pour les autres en transmettant cette science. Car la science, c'est un dépôt, c'est une amana que tu as auprès de toi. Et ce n'est pas une chose que tu possèdes et que tu gardes auprès de toi et que tu en prives les gens. Les gens ont besoin de cette science. Il est donc obligatoire à celui qui détient une science de la transmettre, de l'exposer et d'y inviter les gens, d'inviter les gens au bien, d'inviter les gens à l'islam, d'inviter les gens au bien dont il a connaissance. Et c'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre, dans Surat Ali Imran, au verset 187, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Allah prit de ceux auxquels le livre était donné, c'est-à-dire les gens de science. Allah prit de ceux auxquels le livre était donné cet engagement, exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas. Ceci est donc un engagement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris avec les savants, avec les gens de science, qu'ils l'exposent aux gens et qu'ils enseignent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé comme savoir et leur a accordé comme science et qu'ils propagent le bien parmi les gens afin de faire sortir les gens de l'obscurité de l'ignorance à la lumière de la science. Et ceci est l'œuvre des messagers alayhimu salatu wassalam ainsi que de leurs suiveurs, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » Dit « Voici ma voix, j'appelle les gens à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. » Ceci est donc la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la voix de ses suiveurs. Ils apprennent la science, ils la mettent en pratique, puis ils invitent les gens à cette science et à sa mise en pratique. Celui qui n'appelle pas à la science et à sa mise en pratique, alors qu'il en a les capacités, alors qu'il a obtenu et acquéri un certain savoir, et qu'il cache cette science et ne la transmet pas, alors il sera bâillonné par des brides de feu au jour de la résurrection, comme cela est mentionné dans le hadith que rapporte Abi Hurayra radiallahu ta'ala anhu et qui est recueilli notamment par Abu Daoud et Tirmidhi. Qu'Allah leur fasse miséricorde et que l'imam al-Albani rahimahullah a jugé comme authentique. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Celui qui cache la science, qui est interrogé sur la science, qui a une science et ne la transmet pas, mais il la cache aux gens, il sera bâillonné par des brides de feu au jour de la résurrection. Cependant, la transmission de cette science, elle nécessite que tu la maîtrises. C'est-à-dire que tu ne transmets aux gens que ce dont tu as pleine connaissance. Ad'u ilallahi ala basira. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager de dire « Ceci est ma voix, j'appelle les gens à Allah. » Comment ? Avec clairvoyance. C'est-à-dire en me basant sur des preuves évidentes. Ce dont tu as connaissance, tu en informes tes proches, tu en informes les gens qui sont autour de toi, afin que le bien se propage au sein de la communauté. Ensuite, le Cheikh il a dit, rahimahullah, al-rabi'a, as-sabru ala al-adafi. La quatrième chose qu'il est obligatoire pour nous de savoir et de connaître, c'est la patience face au préjudice dans cela. C'est-à-dire la patience face au préjudice que tu vas subir dans l'appel à cette science et dans l'appel à la mise en pratique de cette science. En effet, il est connu que celui qui appelle les gens au bien, qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable, alors il va s'exposer au préjudice. Alors il va s'exposer à des nuisances. Car malheureusement, beaucoup de gens, ils ne recherchent pas le bien, mais ils ne recherchent que leur passion et leur désir. Ils veulent rester dans l'accomplissement de leur passion et de leur désir, rester dans les interdits, rester dans les passions futiles et fausses. Et lorsque quelqu'un vient pour leur interdire cela, et les appelait à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il s'oppose à lui et cherche à lui nuire par les paroles ou bien même pire encore, par les actes. Il est donc obligatoire pour celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala et qui recherche à travers son prêche le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala de patienter face aux préjudices et de continuer dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a pour exemple dans cela les messagers d'Allah alayhimu salatu wa salam et le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a-t-il rencontré auprès de son peuple? Qu'a-t-il rencontré comme préjudice par les paroles et les actes? Ils l'ont traité de menteur, ils l'ont traité de sorcier, ils l'ont traité de fou. Et tout ceci sont des nuisances pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est venu pour les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur indiquer le chemin du bonheur, le chemin du salut, ils se sont opposés à lui. Ils l'ont traité de menteur. Ils l'ont même menacé de le tuer. Alayhi salatu wa salam. Donc, celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala et qui emprunte ce chemin, celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal et qui veut que le bien se propage parmi les gens, alors il doit savoir qu'en empruntant ce chemin, il subira des nuisances et ceci est inévitable. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit patienter. Il doit patienter face aux nuisances qu'il rencontre sur ce chemin. Tant que tu sais que tu es sur la vérité, alors tu dois patienter et tu dois supporter les nuisances occasionnées par cela. Car en faisant cela, tu es sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que tu subis comme nuisance sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans l'apprentissage de la science, que ce soit par la mise en pratique de cette science, la mise en pratique de la religion, ou que ce soit dans l'appel à cette science et à cette mise en pratique, alors sache que tout ce que tu rencontres comme nuisance sur ce chemin, c'est des nuisances qui sont dans la balance de tes bonnes œuvres, si tu patientes, bi'idhnillahi ta'ala. Si tu patientes pour Allah subhanahu wa ta'ala face à tous ces préjudices que tu rencontres, alors ceci ne sont que des hasanats, ceci ne sont que des bonnes actions qui viennent s'ajouter dans la balance de tes bonnes œuvres, incha'Allah ta'ala. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, comme on l'a dit, il a basé son livre sur les preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc mentionné ces quatre choses qui sont obligatoires pour nous de connaître et il a mentionné d'où il a tiré cette obligation. D'où il a tiré ces quatre choses? Il l'a mentionné donc, surat al-Asr, qui est la preuve de ces quatre points qu'il a mentionné, rahimahullah ta'ala. Et nous reviendrons sur cette surat, incha'Allah ta'ala, lors de la prochaine assise, dimanche prochain, bi'idhnillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous. Au jour de sa rencontre, il est certes celui qui répond aux invocations de ses serviteurs. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khayra.